que ça va, que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
En l'an 509 avant l'ère commune, le fils du roi, Sextus Tarquin, a violé Lucrèce, la précipitant dans un déshonneur que sa condition ne pouvait supporter, qui l'a porté à mettre fin à ses jours dans un sacrifice vengeur. Rapporté par Tite Live, l'épisode a marqué la fin du règne des Tarquins et entraîné l'instauration de la République romaine. L'histoire étant devenue un mythe, on ne sait plus si elle a réellement eu lieu, ses sources sont largement manquantes, mais les récits du mythe sont, eux, plutôt abondants. Avant l'opéra Le viol de Lucrèce de Britten en 1946, mais après Le viol de Lucrèce de Shakespeare en 1594, l'abbé Benedetto Panfili se saisit de l'histoire et compose un poème pour qu'Alexandro Scarlatti, le père du claveciniste, en fasse une cantate. En 1688. Plusieurs compositeurs vont aussi faire cantate à partir de la figure de Lucrèce, Benedetto Marcello ou encore Handel et Montéclair. En y mettant chacun sa patte, les compositeurs soulignent des traits différents du drame de Lucrèce, du désir de vengeance jusqu'à l'extase paradoxale. En 2024, l'ensemble Les Paladins fait paraître un enregistrement de 4 de ces cantates par 4 chanteuses qui, au moment de les graver, se sont confiées au micro de Métaclassique sur l'abord du personnage par le compositeur qui leur est dédié. Pour ce numéro violet, vous allez donc entendre, par ordre d'apparition, Lucile Richardot, Karine Dehé, Amel Brahim Djelloul, Sandrine Pio, avec en contrepoint les interventions du directeur artistique des Paladins à l'origine de cette quadrature, Jérôme Correas.
Barbaro, hai vinto, hai vinto, hai vinto, hai vinto. Vane, trionfa, trionfa e godi, trionfa e godi. Vanta, vanta, il tuo diletto. Armato soldi frodi, armato soldi frodi, ti campo il mio letto, ti campo il mio letto, trombe le voci miei, colpi, colpi, mi sguardi.
Est-ce qu'il y a, Lucile Richardot, une des répliques qui, quand vous l'abordez, éclate en particulier dans la musique de Marcello?
Alors effectivement, c'est des passages très vocaux. Il y a beaucoup d'éclats de voix dans
de
cette cantate.
Façon.
Évidemment, ouais. dans les récitatifs, c'est un peu le moment de tous les extrêmes. Mais il y a particulièrement ces petits ariosos, ces petites chansons. Enfin, ces petites chansons qui n'en sont pas. Hein. C'est plutôt le grand moment un peu d'incantation quand elle parle des bois de Libye, des libyques et selves. Et à un moment, il y a un grand éclat. Je le répète deux fois, mais la deuxième fois est modulée d'un ton au-dessus. Et alors à ce moment-là, je pars dans des aigus, il y a un tridaverno, avec des espèces de grands intervalles complètement inhumains. Et là, je crois que je suis sur un mi-aigu totalement inattendu, sur les cavernes de l'Averne, il y a un tridaverno.
Et ça veut dire que Marcello veut les sortir un peu de la nature, enfin les rendre hors normes.
Ah oui, c'est un peu comme si on faisait sortir tous les démons de ces cavernes, toutes les chauves-souris qui sortaient de voilà pour maudire le méchant qui a violé Lucrèce.
À l'inverse, est-ce qu'il y aurait un passage d'une retenue presque suspecte tellement elle n'est pas naturelle ?
Oui, alors un peu plus avant, au début, la première fois que Lucrèce dit qu'elle va battre le pied du sol, così battendo il suol, mina, la première, je la fais un petit peu entre les dents et mina, alors qu'en fait c'est le verbe menacer, donc c'est un peu la menace fantôme, si j'ose citer.
C'est-à-dire que c'est sous-exprimé.
Ah, c'est tout en retenue, et, ouais. Mais heureusement, on laisse éclater la menace beaucoup moins masquée dans la répétition qui suit.
Così battendo il suol, mina. illumina. Il crudo.
Et donc pour moi, c'est vrai que il faut que je retienne un peu l'expression pour pouvoir lâcher les chevaux, comme on dit vulgairement. Mais c'est surtout que la tournure de la mélodie peut sembler un peu badine pour une malédiction, finalement. Pour un...
Ah oui, c'est curieusement anodin.
C'est assez chantant. Ouais. Nina. C'est un peu champêtre,
ouais.
C'est un peu floral, alors qu'en fait, elle lance juste des foudres de ses yeux, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Et alors donc, vous auriez eu tendance à plutôt le surjouer, ce moment-là, par rapport à ce que Marcello vous propose d'en faire ?
Ouais, après c'est tentant effectivement pour certains moments, je pense aussi à un autre moment où il parle de El Precipizio, qui peut être, avec des intervalles tellement heurtés qu'on a envie de piquer un peu les notes, alors qu'en fait non, c'est beaucoup plus legato que ça, c'est beaucoup plus... Voilà, malheureusement les habitudes d'interprétation, vous dites tiens, quand on voit croche de double, on a envie de faire un truc un peu badin, alors qu'en fait non, c'est...
Ouais, parce que ce qui se passe là, oui, justement, on n'a pas lieu d'être chantonné ou d'être léger.
Non, donc il faut un peu lutter contre les premiers réflexes à première vue.
Ouais.
Et avoir le deuxième niveau de lecture de la musique.
Alors, avant de viser ce que peut-être Marcello a infléchi dans votre vision de Lucrèce, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous considérez que Lucrèce a quand même plus ou moins eu le choix de ce qui lui est arrivé ?
Est-ce qu'elle a eu le choix ? Elle aurait pu laisser éclater sa colère plus tôt, mais en même temps, elle a dû être saisie d'effroi, saisie de stupeur quand Tarquin lui est arrivé dessus. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ?
Parce qu'il y a aussi la question de qu'est-ce qu'elle aurait pu faire après de cet événement-là.
Oui.
Parce qu'elle choisit de porter la faute, paradoxalement.
Elle choisit de s'immoler directement. Elle choisit de laisser la responsabilité de sa vengeance à son peuple, à Rome, à son mari... Et à son père, en fait, bon, c'est pas très clair. Peut-être que c'est la traduction française qui est un petit peu machiste, entre guillemets. Enfin, c'est un abus de langage. Mais dans le texte italien, c'est genitore. Mais vu que c'est pas au pluriel, on comprend que c'est son père, c'est pas sa mère. Hein. C'est l'autorité de l'homme. Par rapport à l'agression d'un homme, elle se réfère à l'autorité des hommes pour régler leurs affaires entre eux. C'est pas de son ressort à elle de faire vengeance elle-même, parce que c'est une femme noble. Elle doit pas salir les mains. Elle s'est déjà fait salir assez d'autres trucs. Ouais. Donc elle doit pas salir en plus son honneur déjà bien flétri, en risquant elle-même d'assouvir sa vengeance par elle-même. C'est son père et son mari qui doivent la venger. Et donc, elle en appelle par trois fois. Il y a cette succession de trois citations, « Genitor, consorte » et « Il popolo ». D'une certaine façon, il volgo, le vulgaire, la foule. Et puis finalement, à la fin, c'est plus la foule, c'est Roma. Lucrezia, la première fois qu'on entend son prénom, elle est tout de suite associée à « Il sol dell'onestà di Roma ». Donc c'est la première fois qu'on entend parler de Rome, mais après, Rome sera toujours associée au peuple, à la foule qui est en train de... Enfin, c'est le « candidaton ». Et puis ensuite, « genitor et consorte », le père et le mari.
Je pense que chaque compositeur a souhaité privilégier certains instants. Il y a tout un déroulé, il y a l'acte lui-même qui, bien évidemment, ne va pas être développé en musique et théâtralement, parce qu'il est quand même un petit peu difficile à décrire et à chanter, bien sûr. Et puis, il y a tout ce qu'il y a après, toutes les réactions qui sont contrastées, tous les ascenseurs émotionnels qui se succèdent. Et c'est vrai que la cantate de Marcello commence par quelque chose de très explicatif, de narratif, mais qui n'insiste pas sur la souffrance au moment où la chose se produit. Je pense que Marcello a voulu davantage axer son travail sur la colère et sur la puissance, la force que Lucrezia retrouve après avoir été dans un premier temps anéanti par le viol. On a droit à des pages qui sont très très fortes, avec un côté instrumental très puissant, très très appuyé, des vocalises, des écarts de voix.
Quand j'ai découvert la partition, je me suis dit, mais comment on chante ça? Ça couvre deux octaves complètes, voire un peu plus, et c'est vraiment très heurté, il y a des intervalles de neuvième très fréquemment, des sauts de registre invraisemblables, et très fréquent, donc c'est très fatigant. Et quand on a des périodes de calme ou de passage tenu, comme ça, on en profite pour recharger ses batteries.
Et c'est en ça que c'est intéressant, si on compare ce qui se passe dans cette cantate, donc on est à la fin, dans le texte, on est à la fin du 17e et début 18e pour certaines versions, on est dans un univers où effectivement le personnage perd la raison. Pour tout un tas de raisons, à cause de l'acte lui-même, mais aussi à cause des répercussions sociales, familiales, pour l'honneur, son propre honneur. Et Dieu sait si l'honneur à cette époque-là est important. Effectivement, elle arrive au bord de la folie. Et le suicide est en même temps un acte raisonné, c'est-à-dire la seule possibilité pour retrouver son honneur, et en même temps un acte de folie. C'est ça qui est aussi... fort.
Oui, parce qu'on pourrait se demander finalement si cette honte est invivable avant ou après qu'elle ait perdu la raison.
Mais je pense que cette honte est invivable à chaque seconde de la cantate. Et c'est ce qui fait de cette cantate et de ces cantates des objets artistiques extrêmement forts. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas une seconde sans qu'on touche à l'insupportable.
Toutes vos chanteuses, Jérôme Coréas, m'ont dit que vous aviez tendance à les tirer vers le texte, voire vers le parlando, pour servir en effet le drame et le sens de ce qui est chanté. Dans le cas de Marcello, ça devait être d'autant plus à contre-partition de tirer vers le parlando, alors même qu'on a des intervalles de neuvième, qu'on a donc des ambitus vocaux au sein même des phrases extrêmement larges.
Oui, mais vous savez, je regardais une masterclass de René Fleming hier encore, qui faisait travailler sur une pièce de bel canto, qui commençait par un récitatif et qui était suivi d'une aria, d'une cabalette. Et même dans ce répertoire, elle insistait et elle disait, mais votre récitatif n'est pas assez parlé, il faut que vous le parliez beaucoup plus.
Il faut se rappeler que, contrairement à pas mal de cantates dont les textes sont anonymes, là on a la signature, c'est un cardinal, le cardinal Pamphili, qui nous décrit donc une scène de viol avec la narratrice qui est une femme, qui est une noble romaine. Donc je pense qu'il n'a aucune idée de ce que ça fait, mais alors il s'appuie sur force détails sanglants, voire scabreux.
Ah oui, c'est pas du tout imagé.
Ah oui, non, c'est très
c'est
concret.
Littéral.
Autant on n'assiste pas à la scène, on arrive après la bataille, si j'ose dire. Mais il y a quand même tous les détails, les cheveux, les taches sur l'oreiller, le poitrail débraillé, les yeux révulsés, la voix exsangue, enfin tout ce qu'on pourrait voir dans une peinture totalement doloriste de quelqu'un qui a versé dans la folie. Dans la folie, mais dans la folie post-agression.
Ce qui participe à la difficulté de le chanter.
Ben oui, parce que faut être un peu dans le personnage, mais en gardant une certaine distance pour pas partir complètement dans le décor. Alors après, ça peut être une volonté d'interprétation, de faire des choses hurler, vociférer sur un souffle, enfin dans une expiration totalement extrême, ou alors de rester sur les notes, mais avec une vocalité un peu rude, ou alors un petit peu détimbrée, enfin des choses vraiment théâtrales.
Et donc votre parti pris a été de faire un peu trash mais pas trop, ou au contraire d'un peu sublimé?
Exactement, un peu trash mais pas trop. Mais vu que Jérôme Coréas est assez adepte du parlar cantando, on a essayé un peu de chercher des trucs un peu sur un murmure, dans une espèce d'exclamation désespérée, finissante, surtout pour sursoir au problème de gravité de note, parce qu'il y a un moment où je dois vraiment sortir un ré grave, et on est à 415, donc ça fait quand même un ré bémol ou un do dièse, donc ça commence vraiment à être très 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 grave. Donc je fais l'effort de sortir la note la première fois, mais la deuxième fois, on a compris, on va pas faire non plus la bonne élève, on va faire enfin un peu de théâtre aussi, et ça va faire les mie vendette dans cet esprit-là.
Ah, c'est-à-dire que le parler-porter prend le relais du chanter injouable.
Oui, c'est pas forcément injouable, mais vu que j'ai déjà fait avec les notes propres la première fois, Bah, si c'est répété une deuxième fois, c'est pour dire autre chose, pour dire différemment, pour en rajouter une couche ou pour jouer l'épuisement. Si je le répète une deuxième fois alors que je suis en train de me m'arracher les cheveux, la deuxième fois, elle sera pas forcément plus véhémente, elle sera finissante. Plutôt, elle sera... j'ai déjà tellement fait, j'ai déjà tellement hurlé. Il n'y a plus que ça.
Est-ce que de ces quatre Lucrèces, dans ces quatre cantates, l'une est un peu plus chrétienne que les autres ?
Alors, c'est une question intéressante, parce qu'effectivement, ce texte est fait par un cardinal, hein, le cardinal Benedetto Panfili. Ça s'inscrit dans une démarche extrêmement active de faire ressortir des personnalités d'avant l'ère chrétienne, mais qui pourraient être, si j'ose dire, repêchées et admises dans un corpus de personnes saintes, qui pourraient être considérées à l'égal des saints ou des saintes chrétiennes. Donc il y a quelque chose de très volontaire, finalement, dans ce texte, et de militant. Donc il faut effectivement essayer de débusquer dans laquelle peut-être il pourrait y avoir plus d'allusions à un climat religieux, à quelque chose qui rapprocherait Lucrèce d'une sainte martyre, par exemple, hein, comme les martyrs des premiers temps du christianisme. Et peut-être pour moi, celle de Haendel serait celle qui, par son côté justement lyrique et... pourrait s'élever vers quelque chose de transcendant.
Già superbo del mio affanno. Già superbo del mio affanno. Traditore dell'onor mio.
Karine D, donc vous revient la Lucrèce de Haendel, elle est un peu différente des autres ?
Elle est forcément différente des autres et j'ai envie de dire aussi, pour moi, quand Jérôme m'a parlé de ce projet autour de la Lucrezia, de la Lucrèce, c'était celle que je connaissais le plus aussi, il faut dire.
Que vous aviez déjà chantée.
Que j'avais déjà chantée et c'est vrai que c'est une des cantates de Haendel qu'on connaît le plus, donc c'est un monument, en fait, c'est un monument pour nous. Et donc j'ai été très 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 heureuse de pouvoir graver cette cantate qui pour nous représente toute la virtuosité de Haendel en fait.
Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser écraser par le monument et par conséquent essayer d'y retrouver une sorte de chemin et peut-être de retrouver certaines surprises. Alors la question est, où est-ce que Haendel ne répond pas à ce que l'émotion du texte vous laisserait penser ?
Alors, en réfléchissant, effectivement, ce serait peut-être la surprise d'avoir tout de suite un air lent.
Donc, dès le début.
Dès le début, voilà. Après le récit où, justement, elle raconte ce qui vient d'arriver, c'est-à-dire qu'elle a été abusée par le fils de Tarquin. On s'attendrait à un air de fureur, de furie, de fureur. Et en fait, pas du tout. Elle s'exprime... avec un legato parfait. Et justement, moi, c'est un air qui me fait tout de suite penser à la noblesse du personnage.
Parce qu'il y a maîtrise là où il devrait y avoir effondrement.
Voilà, où on se dit fureur, vengeance, oui, mais avec son côté noble. C'est quelque chose justement qui est très impressionnant, je trouve, dans le personnage, à apporter dans le personnage, justement.
Oh,
Parce que Gia Superbo, alors c'est-à-dire déjà fier.
Oui. De mon tourment. Déjà fier, c'est lui qui est fier. Hein.
Oui, oui, c'est ça. Oui, voilà. Bien sûr, c'est le coupable qui voilà. est fier.
De et mon donc... tourment.
Oui, oui, oui.
Celui qui a trahi mon honneur.
Ouais.
Parte s'en va. Là, il remet une virgule, l'impie. Et après.
Ah oui, donc en fait, il rajoute une virgule parce que dans le texte original, il n'y a pas de virgule après parte.
Oui.
Donc ça veut dire que il fait c'est un sort au départ.
Ouais, exact. Ouais. Ouais.
Avant
ouais.
même la qualification Exactement. Morale de celui qui part.
Exact. C'est vraiment ça. Il part l'impie, le fourbe.
Et ça veut dire que vous suivez Handel dans ce mouvement-là, à arrêter le fait qu'il s'en aille avant de le qualifier d'impie, puis en plus de fourbe.
Oui, parce que là, on imagine qu'elle constate. C'est ça.
Oui.
Elle constate qu'après ce qui s'est passé, ben, voilà, il s'en va. Ciao. Donc elle ne peut même pas s'expliquer vis-à-vis de lui, en fait, c'est ça.
Parce que tout commence par « déjà fier », ça veut dire que... Il est fier avant même que de partir, si bien que son départ n'est même pas un départ de honte.
Bien sûr, bah c'est ça, ouais, bien sûr. Il l'a déshonoré, en fait, comme si c'était rien passé, quoi. C'est ce qu'elle constate, quoi. C'est pour ça que dans cette ère, c'est ce que je dis, on sent vraiment la noblesse du personnage, quoi.
Si on tient l'hypothèse là qu'on vient de formuler, qu'elle est presque enfermée dans son déshonneur, en raison même de sa noblesse, ça veut dire qu'il faut vocalement porter... que la noblesse...
Mais la noblesse, en fait, elle est soulignée par la ligne de chant, justement.
Qui est justement les gâteaux.
Voilà. Ouais. Après, c'est tout le travail qu'on fait, justement, avec Jérôme, hein, de savoir quelle est la couleur que l'on va porter, quel est le sentiment que l'on va porter à tel ou tel moment. Mais à ce moment-là, c'est ça. C'est comme si dans un legato, c'est ça qui nous donne la noblesse du personnage.
C'est l'extase qu'on peut confondre avec la mort parfois, un peu comme dans la Madeleine du Caravage, où on l'a d'abord qualifiée de Maddalena moribonda et ensuite on l'a requalifiée de Madeleine en extase. Donc c'est drôle parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a cette ambiguïté peut-être, ou bien ces deux notions-là en même temps.
Comment est-ce qu'on fait entendre qu'on n'est pas entendu quand on chante ?
Ben justement, c'est intéressant parce qu'elle va passer de récits ou d'air très furieux à des airs lents. Il y a de nouveau un autre air lent qui arrive derrière qui est comme un lamento en fait. Et ça, je trouve ça toujours très impressionnant parce que ça fait venir vraiment le public à soi, quoi.
Le fait d'en rajouter dans la détresse.
Ouais, non, mais c'est vrai, ouais, ouais.
Oui.
C'est-à-dire que, oui, elle passe par tous les sentiments, toutes les expressions, parce que justement, on voit qu'est-ce qui marche. Finalement, c'est ça, bien sûr.
Est-ce qu'il y a une part de folie qui commence à intervenir, de perte de raison ?
Ça, c'est intéressant parce que moi, ça m'est déjà arrivé de faire des scènes de folie.
Mais celle du 19e plutôt ?
Ouais, plutôt 19e. Mais là, je dirais pas qu'il y a de la folie.
Il y a de la fureur, mais ouais. Pas de la folie.
Moi, je dirais pas de folie. C'est vraiment une impulsion, c'est des impulsions légitimes. Hein. Des appels à l'aide aux dieux. Elle dit aussi son état à elle. Elle dit qu'elle ne peut plus être comme avant avec son mari, donc c'est pour ça qu'elle préfère aussi se suicider. Je vois pas de folie. Quand elle dit « avoy »,« padre », donc ça c'est mon père, « consorte », mon époux, « aroma », à Rome, « au monde », voilà, « al mondo »,« presento il mio morir », voilà, « j'offre ma mort », c'est quand même, il faut sortir cette phrase quand même. Non, le texte est incroyable, c'est très très fort, quoi. Et là aussi, c'est pas du tout... là aussi, ça plane, quoi. Et là, c'est la noblesse aussi du personnage, je trouve.
Parce que c'est quand même très ambigu d'en arriver à dire que l'on me pardonne ce crime exécrable.
Ben oui, parce qu'on ne doit pas non plus se suicider, forcément. Donc pardonnez-moi, je n'ai pas le choix, pardonnez-moi, c'est ça en fait.
J'ai souillé sans le vouloir notre honneur.
Voilà.
Parce qu'en fait, elle souille l'honneur de toute la famille en se suicidant. Mmh.
Parce que c'est la famille royale, hein.
Oui.
Non, mais c'est très fort, le texte. Ça inspire évidemment dans les récitatifs, ça nous aide énormément, quoi.
Parce que la décision pourrait stabiliser quelque chose, au contraire.
Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la dernière page, on a tout justement. On a un air aussi très très piano, très legato, et à la fin, il y a les deux lignes de vocalise et de fureur. Et là, on sent que c'est vendetta, c'est la vengeance.
De toute façon, Lucrèce n'est jamais vulgaire, c'est pas possible, puisque c'est justement un parangon de noblesse, de dignité, puis aussi de droiture. C'est quelqu'un qui a une moralité, c'est une matrone, dans le sens ancien, une matrone romaine, c'est-à-dire une femme mariée, digne, responsable, en qui on peut avoir confiance. Et c'est justement à elle que ça arrive. Alors c'est effectivement la chose la plus inacceptable, que ça arrive à quelqu'un d'aussi digne. Et il y a effectivement aussi l'expression de sa dignité dans cette ère-là. Mais ça va pas, j'allais dire, ça va pas durer. Enfin, oui et non, parce que est-ce qu'elle perd sa dignité en se fâchant et en lançant des imprécations contre lui? Ça, c'est aussi à l'auditeur de le décider. Il faut pas non plus suggérer trop de choses.
Oui, boucler le panel émotionnel. Ouais.
Et surtout pas. Ouais. Il faut que, justement, des gens puissent se dire exactement comme on le fait actuellement. Est-ce qu'elle est plutôt comme ci ou est-ce qu'elle est plutôt comme ça? C'est ça qui est intéressant, parce que si tout est souligné, c'est dommage.
Mais alors, vous quand même, Jérôme Corrèze, est-ce que vous êtes d'accord avec Karine D pour dire que celle-ci de Lucrèce, celle de Handel, ne voit jamais de folie?
Ah, c'est drôle qu'elle ait dit ça. Ne voit jamais de folie, ah bon? Ah ouais, c'est drôle, parce que pour moi, elle a une folie absolument mais effrayante, et en particulier à la fin. Et c'est drôle qu'elle dise ça, parce que à la fin, justement, je lui ai demandé de rajouter des notes dans l'aigu, et entre autres de finir vraiment la cantate par un contrut. Parce que chacun sait que Karine Dehaye a des aigus absolument triomphants et très, très faciles, que moi j'adore.
Donc vous ne vouliez pas vous en priver.
Voilà, et je lui ai demandé de rajouter un contrut tenu, et de finir la partition comme ça, donc dans quand
même. Vous lui avez rajouté un peu de folie, donc.
Ah oui, dans une violence avec un écart de 2,5 octaves qui, pour moi, fait qu'elle finalement elle meurt dans une surcroît d'énergie et de folie, mais qui n'est pas indigne pour autant, hein, qui reste noble, mais enfin qui est dans, elle sort du cadre complètement. Mais c'est très drôle de voir que finalement on suggère des choses aux interprètes et finalement les interprètes les transforment volontairement ou involontairement, et ça donne quand même quelque chose avec quoi on est d'accord. Et c'est vrai que j'ai eu un peu l'impression d'être comme un metteur en scène dans un film. Il faut laisser passer, il faut lâcher certaines choses qui se transforment par rapport à ce qu'on avait imaginé, mais qui nous conviennent quand même. C'est ça qui est vraiment passionnant, d'autant plus avec plusieurs interprètes.
Amel Brahim Djelloul, est-ce que vous avez lu le texte avant de le chanter?
Oui, les deux se sont faits un peu comme quand même dans ces textes-là qui se déploient. C'est hyper important de commencer par le travail du texte. On passe d'un affect à l'autre et c'est hyper important déjà de le visualiser et de le ressentir au travers du texte. Et bien sûr, évidemment, on se mettre déjà un peu la musique dans l'oreille pour voir comment les correspondances se font entre texte et musique après, mais au départ, c'est beaucoup de textes et beaucoup de récitations de textes.
Alors là, c'est vous, la musique d'Alessandro Scarlatti.
Oui.
Est-ce que vous avez le sentiment que le langage est cru ?
Oui, c'est plutôt assez direct à comparer avec celle de Handel qui est un peu plus enrobée.
Oui.
Oui, un peu plus lisse. Alors, je ne sais pas si c'est le texte, mais aussi la musique qui en rajoute une couche. Je trouve que celui-là est quand même très direct, un peu plus fourni.
Oui.
Il est plus long, je pense. Et du coup, bah, ça permet de se déployer encore plus. Et dans cette alternance permanente de sentiments, de confusion, de faiblesse, enfin, il y a un tas de sentiments différents qui traversent le personnage.
Texte parle déjà au tout début de choses très précises, d'un oreiller taché, de la sposa violata, donc il dit le mot déjà, violé, parce que tous les textes ne le disent pas, c'est ça qui est intéressant, c'est que...
Oui, celui-là est plus franc.
Ah oui, celui-là est vraiment, et d'ailleurs c'est le texte d'origine hein, pour la cantate de Scarlatti, effectivement on a ce vocabulaire très précis, comme à un autre endroit par exemple. Elle dit que, effectivement, c'est peut-être elle, c'est peut-être de sa faute. C'est là d'ailleurs où c'est très intéressant parce qu'on rejoint des émotions dont on parle aujourd'hui encore. C'est-à-dire que si j'ai été violée, c'est peut-être de ma faute, c'est peut-être moi qui ai eu une attitude provocatrice. On entend bien des choses d'ailleurs encore à ce sujet-là. Hein. Si elle a été violée parce que c'est de sa faute, elle a eu une attitude inappropriée. Et elle le dit, j'ai peut-être eu des regards, des mouvements provoquants sans m'en rendre compte, donc c'est peut-être de ma faute. Ça, j'ai trouvé ça très cru et donc très intéressant parce que ça va au-delà justement de la rhétorique, de la bien-pensance. On est quand même dans une très bonne société hein, romaine, fin XVIIe siècle, et il y a quelque chose qui nous amène beaucoup plus loin, et ça, je trouve ça très intéressant, parce que ça devient intemporel.
Est-ce qu'il y a des moments où elle l'exagère, où vous auriez peut-être mis moins d'expressivité que n'en a pu mettre Scarlatti ?
Non, parce que je trouve qu'il y a un moment où c'est quand même un peu la folie. Le seul moment où je trouve que c'est complètement, ça se barre complètement, c'est « Ma crudel dove andrai per fuggir le mie vendette ». C'est le moment où elle lui dit « Mais où vas-tu ? Où crois-tu aller ? Tu subiras ma vengeance de toute façon, d'une façon ou d'une autre. »
Mais alors, c'est peut-être pas le moment où elle est la plus folle, puisque précisément sa résolution est
prise. Si, parce qu'elle déblatère un tas de trucs. Enfin, elle vomit des mots, elle lui dit les pires choses qu'elle peut lui faire subir, et que même au paradis, elle le suivra.
Thank you.
Et qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse de Jérôme Coréas quand il vous dit qu'elle pourrait bien prendre peur de ce qu'elle va faire ?
Peur de ce qu'elle va faire. Moi, je ne suis pas sûre que celle-ci, elle a peur de quoi que ce soit.
Qu'elle passe par la peur ?
Non, je pense qu'elle a été déshonorée, souillée à un tel point que je crois qu'elle a un peu peur de rien à part le fait qu'elle sait que l'issue, de toute façon, sera la mort et que c'est le suicide.
Alors, je ne lui ai pas demandé de jouer la peur de ce qui va se passer, mais la peur d'elle-même. Parce que, justement, Lucrèce est très violente à certains moments, et d'ailleurs, Amel restitue ça d'une façon incroyablement forte, et je pense qu'elle se fait peur elle-même.
Mais en quoi elle se fait peur ?
Je crois que sa propre violence lui fait peur. Je parle de,
oui,
de Lucrèce.
Bien sûr, du personnage, oui.
Parce que, d'abord, pour une femme, à cette époque, et encore bien après, on sait très bien que dès qu'une femme s'énerve, on lui dit « Oh là là, t'énerve pas, tu es hystérique ». Donc, on peut la taxer d'hystérie. Donc, elle devient très puissante par ses, d'abord par sa voix, par ce qu'elle dit, par ses cris, par ses imprécations, parce qu'elle le maudit, elle le condamne à errer en enfer, il va être maudit à jamais. Et je pense que sa propre violence, c'est-à-dire peut-être son manque de dignité, croit-elle, lui fait peur. Et j'ai demandé à Amel d'avoir peur parce que je me disais que comme ça, c'est pas toujours extraordinaire d'expliquer aux gens à 100% ce qu'on veut. Il faut leur laisser, aux interprètes, il faut leur laisser cette marge d'invention. Et on dit le mot peur, et le mot peur va être interprété de façon diverse, et ça va nourrir la chose. Mais je crois que Lucrèce a peur d'elle-même, a peur de ce qu'elle devient, et du personnage qu'elle n'aime pas, évidemment, et qu'elle est en train de devenir par réaction à ce qui vient de lui arriver.
Mais ça, vous le comprenez vous-même, que le déshonneur puisse aller jusqu'à ce qu'on ressente même plus l'effroi ?
Ben, je pense que dans ces personnages qui sont tellement dans une vertu de pureté et d'honneur, je pense que ça fait partie de leur culture même, de leur éducation.
Mais parce qu'on pourrait se dire que c'est quand même un honneur mal placé que d'aller jusqu'à se tuer soi-même.
Oui, mais parce qu'elle sait que, de toute façon, elle suscite la honte. Elle dit que son père éprouve de la honte, que son mari éprouve du dégoût, alors qu'elle n'est pas responsable
de ce qui s'est passé. Ben c'est ça.
Et pourtant, elle leur demande vengeance et elle espère vengeance. Elle l'exprime, elle, qu'elle aimerait se venger, mais finalement, elle sait bien qu'elle ne pourra pas se venger puisqu'elle va se tuer. Mais c'est comme si elle laissait un testament. Son testament, c'est que son père et son mari se vengent
pour elle. Mais alors, parce qu'on imagine que si elle allait voir un psychologue du 21e siècle, le psychologue la dissuaderait complètement de ce choix-là.
Évidemment. Mais malheureusement, on n'est pas à ce siècle-là. Et il faudrait, pour pouvoir incarner et être complètement dans ce premier degré, parce que pour moi, enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça.
C'est-à-dire ?
C'est vraiment de se mettre au premier degré, parce que si c'était moi qui le chanter Amel aujourd'hui, peut-être que je ne le chanterai pas comme ça, puisque je sais qu'il y aurait d'autres alternatives.
Si c'était votre histoire,
voilà,
vous auriez plus de recul.
Ben oui, évidemment. Et c'est là peut-être que le psychologue ferait peut-être son travail de psychologue et m'empêcherait de rentrer dans une forme de folie dépressive.
C'est-à-dire que je pense qu'il essaierait de vous faire ressentir que vous n'êtes pas coupable pour commencer.
Voilà. Oui. C'est de travailler d'abord sur la culpabilité,
oui,
qui est la première chose qu'on ressent quand on traverse une expérience aussi douloureuse, ou pas, peut-être qu'elle ne serait pas si douloureuse, parce que tout peut être relatif par rapport à ce genre d'expérience.
C'est-à-dire ?
Ben, on peut tout à fait se dire que même si elle ne l'a pas choisi, après tout, elle pourrait quand même l'intégrer et l'accepter et ne pas le vivre comme une intrusion. une femme d'aujourd'hui, peut-être qu'elle ne le vivrait peut-être pas comme ça. Si Sextus rentrait, que c'est quelqu'un qui est connu dans son entourage, un ami, et puis finalement, il est allé un peu plus loin que prévu, peut-être qu'elle refuserait au départ, mais peut-être qu'elle prendrait aussi du plaisir à le faire. On ne sait pas.
Ça, c'est oui, une hypothèse qui n'est pas du tout envisagée dans le texte du cardinal.
C'est
oui.
ça. Mais...
Par contre, il y a l'hypothèse qu'elle ait pu être un peu responsable quand même, au sens où elle aurait aguiché.
Oui, mais vu le personnage, en tout cas comme je le vois, je pense que ça n'a pas été le cas. Sinon, elle ne serait pas à dire... Alors, en plus, on me ferait la responsable d'avoir aguiché cet homme en plus. Ouais. C'est terrible.
L'autre chose que dit Amel Brahim-Djelous, c'est que, et c'est là que peut-être Lucrèce n'est pas un personnage si intemporel que ça, c'est que transposée dans une situation analogue au XXIe siècle, on pourrait se demander si elle ne pourrait pas l'accepter, ce qui lui est arrivé, et le vivre autrement que comme une intrusion, pour reprendre les mots de Amel.
Alors je crois qu'Amel est très optimiste, c'est bien, hein, mais je ne suis pas sûr autant qu'elle, que les choses aient malheureusement autant changé. Je pense qu'on a des outils aujourd'hui pour travailler sur ce choc et ce qu'on a vécu quand on a été violé. Mais malheureusement, je pense que justement, ce qui est vraiment intéressant par rapport à ce texte, c'est que toutes ces phases d'abattement, de remise en question de soi-même, du fait qu'on se dit qu'on ne vaut rien, du fait qu'on veuille se venger, du fait qu'on veuille mourir. Je trouve, j'ai l'impression que c'est encore très très présent dans tous les témoignages qu'on entend aujourd'hui.
La façon de prononcer le dernier mot alors doit contenir aussi que c'est le dernier souffle, ce addio qui...
Oui, ça y est, c'est l'expiration du dernier souffle. J'aime beaucoup cette fin aussi et il faut aller chercher loin pour dire je tombe, je meurs, j'expire, adieu. Et il faut pouvoir trouver plusieurs façons de... Enfin, une variété. Et donc, c'est là où il faut aller encore plus loin, chercher en soi pour dire je tombe, voilà, je meurs, j'expire. Adieu.
Quand, Sandrine Piau, on doit chanter Lucrèce, est-ce qu'il faut se dépouiller d'une certaine responsabilité, au sens où on pourrait faire comme si on avait pleinement le pouvoir sur ce qu'on raconte, alors que peut-être qu'elle n'a pas pleinement le pouvoir sur sa décision?
Bon, je crois finalement que ce soit Lucrèce ou n'importe quelle décision de la vie, on n'a jamais tout à fait le pouvoir de nos décisions. Alors, je dirais que dans le cas de Lucrèce, en tout cas, elle se bat tout au long de cette cantate pour prouver qu'elle a ce pouvoir-là. C'est-à-dire qu'elle a...
Elle se bat même pour le conquérir, en quelque
sorte. Elle se bat pour le conquérir, elle se bat pour voler aux hommes une victoire qui sera sa mort, qui sera la honte du violeur. En tout cas, elle espère, par cet acte qu'on peut dire héroïque ou désespéré, je ne sais pas, je ne trancherai pas, ou les deux en même temps, elle espère effectivement être maîtresse de sa décision. Mais je suis peu convaincue qu'on soit jamais vraiment maître de nos décisions. Enfin voilà, ça c'est mon pessimisme personnel.
Il peut y avoir quand même un moment où elle prend peur de ce qu'elle va finalement s'infliger.
Ah ben certainement. Je pense que l'héroïsme d'ailleurs vient du fait qu'on a peur. Enfin, je veux dire, si on n'a pas peur, c'est qu'on est juste complètement inconscient. Donc, dans cette cantate-là, on a tout de même l'impression qu'il y a peu de doutes. Il y a des moments plutôt d'exaltation, des moments aussi où elle se dit, ah ben, c'est ça finalement la mort. Il y a une espèce d'entre-deux quand elle perd ses forces, que le sang s'écoule. C'est plus des moments de sidération. Et,
Mais alors, une sidération sur ce qui lui est arrivé ou sur ce qu'il va lui arriver ?
Eh ben, je pense sur ce qui va lui arriver. Et sur ce qui lui est arrivé, de toute façon, ça c'est sûr, mais dans une cantate, tout n'est pas toujours développé tout du long. Mais je pense que c'est toujours très compliqué quand quelqu'un passe à l'acte et se suicide de jamais comprendre quelle a été la part d'un geste qui va vous libérer d'une douleur et à quel moment on est conscient que c'est irrévocable.
Parce que quand vous dites qu'il y a peu de doutes dans cette cantate, alors on le comprend bien s'il y a effectivement une envie d'héroïsme avérée, mais on peut se demander si cette envie d'héroïsme n'est pas tout simplement liée au genre cantate. C'est-à-dire que c'est quand même compliqué de chanter une cantate sans héroïsme.
Oui, alors je pense que de toute façon, la cantate, c'est une sorte d'opéra miniature et
oui.
Que...
On est là pour être victorieux de soi-même, quoi.
Voilà, enfin, ouais. Et le compositeur va développer dans une forme assez courte un panel de sentiments et un panel d'émotions que vont traverser les personnages et, l'espère le compositeur, l'auditeur aussi, les auditrices. Il y a une espèce de tempête de sentiments divers et variés qui sont parfois très, très ramassés et du coup peu développés aussi. Et donc, il faut tout d'un coup qu'un air frappe. Alors, on bascule d'abord, évidemment, dans le premier récit, c'est la révolte devant tout ce qui s'est passé. Et puis, très vite, on a un air qui installe une sorte de tristesse morbide. Donc, on sent déjà qu'elle se prépare à son geste. Peut-être qu'elle y réfléchit. Je sais pas, moi, je la vois comme une espèce de stratège aussi. Enfin, je veux pas minimiser du tout la douleur de cette femme, mais on sent qu'elle met un petit peu en scène sa mort. En tout cas, dans cette cantate, elle explique très clairement ce qui va se passer, pourquoi. Et après, même, elle fait une sorte d'état des lieux de ce qu'elle ressent au moment où elle s'est coupée les veines. Donc, et de ce fait, l'émotion va sortir. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de structure où déjà, elle parle beaucoup d'honneur quand même. Le début, c'est vraiment, tu m'as ôté mon honneur, et voilà, et le sang va couler, et ça sera le mien, et ça sera ma vengeance. Donc, et après, dans cette ère, au début, elle lui dit, mais tu t'en vas, c'est inacceptable. Là, il y a une part de révolte, et puis vient un autre récit qui, lui, dit, tu délires, de toute façon, il ne t'entend pas, il est parti. Maintenant, si tu veux être maîtresse de ton destin, tu vas prendre une décision, non pas par rapport à ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. C'est toi qui décides. Et donc là, il y a une espèce de bascule à ce moment-là. Ensuite, il y a un air de bravoure. On parlait de parce qu'il faut évidemment.
Oui, ça c'est le genre obligé. Enfin, c'est obligé par le genre.
Oui, que ce soit d'ailleurs dans la musique italienne ou
quelle
française.
Quelle que soit l'histoire.
Quelle que soit l'histoire, tout d'un coup, c'est alors courage, mon esprit. Voilà, on va aller vers la mort. Donc c'est coraggio, mia spirti. Voilà, là c'est très déclamé. On sent qu'elle parle, qu'elle chante ce texte aussi peut-être pour se donner du courage. C'est presque un air guerrier.
Mais c'est vrai que le fait de retourner la violence contre soi, qui est quelque chose qu'on voit, alors fort heureusement ça n'arrive pas toujours, mais c'est quelque chose qui pour moi ne réduit pas pour autant la grandeur du geste. Surtout que, et c'est là qu'effectivement les deux sociétés, fin 17e, début 18e et aujourd'hui, sont quand même différentes, c'est qu'on avait quand même cette idée d'honneur. L'honneur, il fallait le faire passer par-dessus tout. Et d'ailleurs, la société de l'époque baroque, pour ça, est la même que la société romaine hein, du 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est que l'honneur, son honneur à soi, mais aussi l'honneur d'une famille, puisque quand une personne a été violée, mais ça se voit encore maintenant, hein, c'est toute la famille qui est éclaboussée, c'est toute la famille qui est déshonorée. C'est quelque chose qui fait que tout un clan... Et Sally, tout un clan, est complètement compromis, même dans son parcours. Je me demande si ça, malheureusement, oui, autant changé que ça.
Alors, pour le coup, sur la question de la peur, Sandrine Pio dit, elle, que ce ne serait pas héroïque si elle ne le faisait précisément pas avec de la frayeur, et que la frayeur atteste quasi de ce qu'elle sort d'elle-même quand elle fait ça. Quoi.
Mais oui, je suis tout à fait d'accord, parce que je pense que le fait de faire un geste, quel qu'il soit, en prenant sur soi, malgré soi, renforce évidemment la force de la décision et le mérite, si on peut dire, qu'on peut avoir à faire ce geste. Quand on fait un geste facilement parce que ce sont mes hormones qui me le dictent, ou bien parce que je me pose aucune question, quelque part, ça a peut-être un petit peu moins de valeur. Et le fait, le tiraillement, le conflit, effectivement, encadre... Hein, d'une façon assez noble et belle et majestueuse, et en fait un geste, je suis assez d'accord.
Alors, le paradoxe, puisque là on parle de la cantate composée par Monteclerc, dans le cas de celle chantée par Sandrine Pio, le paradoxe c'est que malgré cette frayeur qui permet l'héroïsme, il n'y a pas de doute, au sens qu'il y a une netteté de la ligne vocale qui est sans merci, quoi, ouais.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de doute dans cette cantate-là. Peut-être aussi parce que, contrairement à ses collègues italiens, Monteclerc est un musicien français qui n'est pas un musicien de théâtre. C'est pas Lully.
Oui, c'est le seul compositeur français des quatre.
Ouais, voilà, ouais. Il a écrit en italien. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'il ait écrit cette cantate en italien.
Mais avec des codes musicaux qui sont vraiment celles d'un français.
Voilà.
Ceux d'un français.
Et qui ne sont pas ceux d'un compositeur de scène. Je pense que la même chose traitée par Lully quelques années avant aurait été certainement, je dirais, beaucoup plus théâtrale et moins dans un développement musical. Je pense que Monteclerc avait envie aussi de montrer de très belles mélodies et de très belles ambiances. Pas seulement des mélodies, mais des ambiances musicales fortes, parce que la cantate est vraiment magnifique. Mais il traite... son texte et cette situation à travers quelque chose qui est plus dans l'air. C'est-à-dire que les récitatifs sont très très peu développés. On voit qu'il n'est pas très intéressé par les récitatifs et qu'il va développer la peur, un peu de doute ou la violence à travers des airs.
Ouais, c'est même à se demander si le caractère moral de Lucrèce ne vient pas simplement en creux de ce qui sont d'abord de sa part des choix musicaux. Parce qu'il veut faire un air de bravoure, donc il va la charger en héroïsme, c'est un peu ça.
Oui, j'ai l'impression qu'il veut surtout montrer qu'il sait composer dans le style italien.
Ouais.
Des airs a da capo, donc avec une partie A, un développement, partie B, et retour, voilà, ce qui est quelque chose qui se faisait pas beaucoup en France hein, à cette époque-là, et qui vient d'Italie. Je pense qu'il veut nous montrer qu'il a choisi un sujet très 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 fort et très tragique, et que ce sujet peut s'illustrer très bien avec la musique de style italien.
Parce que dans les syndromes fréquents, il y a aussi l'énergie de la vengeance. C'est quand même une énergie très forte.
Oui, mais là, elle considère que le fait de mourir et de lui foutre la honte, ça va être une vraie vengeance. Alors évidemment, nous, on se dit, bon... On aurait peut-être mieux choisi de les carteler, quoi. Oui, la vengeance fait partie de ça, mais ça peut être une vengeance contre elle-même. Parce que là, quand elle dit « coraggio me spirti », voilà, puisque l'honneur est perdu, eh ben, je vais agir, moi. C'est-à-dire que j'ai été victime, je n'ai pas pu agir. Souvent, quand on est violé, on est complètement... on n'a aucune marge pour réagir. Au mieux, on reste paralysé, au pire, on se débat, mais ça ne suffit pas. Et là, tout d'un coup, cette façon de se révolter ou de prendre le pouvoir, c'est la victoire des plus faibles qui, parfois, ne peuvent que se punir eux-mêmes puisqu'ils ne peuvent pas punir le bourreau.
Est-ce qu'il y a des moments de cette cantate où vous sentez justement que cette énergie peut-être vient davantage, finalement, de Monteclerc que de Lucrèce ?
Alors, peut-être parce que je suis musicienne et que je viens souvent à l'émotion par la musique, et que parfois ensuite la beauté du texte vient parce que la musique m'y a donné accès. Oui, j'ai tendance à penser que Monteclerc a mis en évidence d'une façon très forte certains passages. Et justement, quand je parlais de ce courage, mon esprit, il y a une espèce d'air guerrier, et tout d'un coup, il y a une deuxième partie, elle s'arrête d'un coup, et on a une espèce de musique quasiment... religieuse, complètement suspendue, il n'y a plus aucune basse, il y a les violons qui font une sorte de mélisme, comme ça on ne sait pas trop ce que c'est, on imagine les gouttes de sang qui tombent, et ces moments où elle dit « circondino i mirti, les membra violate da un perfido amor », je dis mieux en chantant, hein, mais bon, « que les myrtes entourent ce corps violé par un amour perfide », et c'est-à-dire que tout d'un coup cette musique et ces violons sont tellement caressants, cette espèce de volute. Et on sent que sur cette blessure épouvantable, ces violons sont comme une caresse. Souvent que la musique française est très intellectuelle, qu'elle fait plus appel justement à la réflexion qu'à l'émotion par rapport à la musique italienne ou même allemande qui développe des grandes phrases et des grandes lignes. Évidemment, moi je l'aime profondément, donc je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est vrai qu'il y a cette tradition monosyllabique, donc de récitatif, presque tout est récitatif. Même dans les airs, c'est rare qu'on ait deux notes avec la même syllabe. Et finalement, ben, Pélias et Mélisande, c'est pareil. C'est un immense récitatif, juste un peu plus tard dans le temps. Mais finalement, qu'on parte d'Attis, de Lully, ou qu'on arrive à Pélias, c'est la même chose. C'est des grands récitatifs. Le texte a une importance capitale. On a l'impression qu'on déclame puisqu'on est monosyllabique. Et il faut, pour autant, arriver à créer des lignes par moment. Et c'est ce paradoxe de la musique française qui est très intéressant et qui est encore plus exacerbé peut-être dans la mort de Lucrèce, parce qu'on a des moments très très français. Et puis tout d'un coup, bah, il dit « bah oui, mais voilà, si j'écrivais à l'italienne, vous auriez le temps de faire des grandes phrases et ça ferait ça et ça ferait ça. Mais vous allez quand même avoir des syllabes en italien, mais placées à la française. » Donc il joue avec tout ça. Et ça donne une beauté très étrange à cette cantate.